Toujours sur les ondes de Radio Diwa, toujours pour suivre le périple de Romain, un Diwa en transat qui vient vous présenter de manière régulière maintenant ses petites aventures. Tantôt on est trois avec Jeanne, moi-même et Romain, et des fois avec des invités, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Et aujourd'hui du coup c'est Tom qui vient avec nous en studio.
Oui, c'est ça.
Salut à toi.
Salut Tom.
N'hésite pas à parler près du micro Tom,
oui,
familiarise-toi.
Carrément. Salut à vous et puis oui, je suis un ami de longue date de Romain, donc ça me fait plaisir de venir ici.
Moi, ça me fait plaisir de t'accueillir.
Et pour Tom et un peu pour les auditeurs qu'on a laissés depuis la dernière fois, on resitue rapidement où c'est qu'on en est et puis après on continue du coup 3 jours par 3 jours comme d'hab.
Carrément, et ben, on avait bien avancé là, sur notre traversée entre Barbuda et les Açores. Ça faisait 21 jours qu'on était parti de Martinique. Et donc, 16 jours qu'on avait quitté Barbuda. Donc, il reste encore un petit peu de chemin jusqu'aux Açores, mais on avance. On va toucher du vent, il y a de la mer, il fait plus frais, c'est le dur un peu là. Il y a une ambiance, quoi. Il y a quelque chose. Là, à ce moment-là, on est dans un mood, quoi, un peu.
Ouais, vous êtes vraiment dans le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes parti, vous vivez le truc quotidiennement, quoi. Eh bien, allez, on écoute la suite de ces aventures.
C'est parti. Mai 2024, jour 22 transatlantique. Lors de mon quart de minuit à 3 heures, tout se passe bien, mais il fait froid. Je regrette un peu les Antilles. Je regarde la série The Gentleman de Guy Ritchie, vraiment sympa. Épisode terminé, Lisa est réveillée, et là, le jour commence à se lever. C'est encore une fois époustouflant. Puis, je pars me coucher en pensant faire une grasse matinée dans les bras de Morphée. Il est 8 heures passées, je suis dans ma cabine en train de somnoler et de chercher le sommeil entre deux fracas de vagues lorsque j'entends un gros bruit sourd. J'entends que ça concerne le gréement. Je sors tout de suite ma tête par le hublot et je ne remarque rien de particulier, si ce n'est que le Genneker est sorti côté tribord, de l'autre côté de ma cabine. C'est la première fois depuis notre départ. Par contre, j'entends David s'activer, et je comprends vite que quelque chose ne va pas. Ni une ni deux, je m'habille, et je ne suis même pas encore sorti que j'entends David m'appeler en urgence. Lorsque je sors, David m'explique un peu, paniqué, que la drisse du Genneker a surpâté. Elle est coincée sur un winch. Qu'elle est impossible à défaire à cause de la tension, et que pendant ce temps, le Genneker flappe dans tous les sens à cause du vent. Il menace de se déchirer à tout moment. David pense alors à couper la drisse pour sauver la voile et nous-mêmes par la même occasion, car c'est dangereux. Mais ce serait préjudiciable pour nous. Dans la précipitation, on trouve une solution en voulant border l'écoute, mais il faut qu'on la prenne à la main pendant un certain moment. Laura manque de se faire emporter avec. Je manque de peu d'y laisser un doigt dans le winch. Lisa, quant à elle, se brûle les mains sur celle-ci. C'était la guerre. Mais on a réussi à sauver les meubles. Pour les curieux, je vous expliquerai en détail le pourquoi du comment quand on se croisera. C'était décidément le moment le plus chaud depuis notre départ. La conséquence est qu'on ne peut pas utiliser le Genneker côté tribord pour le moment. Mais les coulisseaux qu'on avait réparés avec David ont également lâché. On se retrouve donc avec seulement la grand voile à 3 ris, et le Solent d'utilisable avec l'orientation du vent. On répare donc les coulisseaux encore une fois, mais ça relâchera à peine quelques heures après. On navigue donc comme décrit juste au-dessus, un peu sous-voilé. Mais c'est pas grave puisqu'il nous reste moins de 700 milles jusqu'aux Açores et qu'on a réussi à garder 3 jours de moteur environ. En plus, on avance tout de même autour de 5 nœuds, ça le fera, on va tenir. Et puis, dans l'après-midi, bonne nouvelle. On chope une dépression qui devrait nous emmener tout droit aux Açores et chez Peter. Petit bar de marins sur place, dont on parle depuis plusieurs jours. On a hâte d'y savourer un bon plat et une bonne bière. Ce n'est pas tout. Grande et bonne nouvelle. On pêche un thon jaune de minimum 4 kilos. C'est la fête pour nous avec David, on est trop heureux. Surtout après la journée et toutes les vannes essuyées par nos VG, Lisa et Laura, qui ne se sont pas retenues de se moquer des kilos de sargasses qu'on a pêchés auparavant. Ce soir, c'est ceviche en apéro et steak de thon en plat. En attendant, je vais faire la sieste. Je suis mort avec toutes ces émotions et le manque de sommeil. vient le moment de l'apéro. C'est un régal. Puis le plat de résistance, un délice. Qui a dit qu'on n'allait pas se régaler pendant la transat ? Après ce repas bien garni, au lit. Prise de car à 3h demain.
Ça devait être intense.
Cette journée.
Ouais, le moment là justement avec la voile et tout. Du coup, c'est ça, vous avez été obligé de tenir la voile avec vos mains.
En gros,
c'est ça, et vous êtes brûlés.
En gros, une voile quand sur un bateau, elle est attachée à un winch. Tu sais, c'est un truc métallique qui est en forme de rond sur lequel tu peux en fait tendre ou détendre la voile. En gros. Et en fait, sur ce winch, la corde dont le boot sur un bateau, on avait parce qu'une corde c'est que à terre, sur un bateau on parle que de boot, et ben elle doit être entourée dans un certain sens et ne pas se chevaucher. Sinon, en fait, il y a une tension qui est dedans qui est assez immense. Enfin, le vent dans une voile qui fait plusieurs dizaines de mètres de carré, et ben c'est très puissant. Et donc, et ben derrière, ça pourrait faire un nœud qui, ben, en fait, se coince et derrière, on pourrait plus bouger la voile et ça peut devenir très dangereux. Donc, c'est ce qui s'est passé là. En fait, ça a surpâté, on appelle ça. Et donc, on a dû trouver une solution pour en fait lâcher de la tension pour pouvoir défaire ce nœud, la faire repasser en dessous. Okay. Sauf que c'était une galère pas possible. Genre, vraiment, c'était un truc de fou.
Tout ça avec du vent.
Ouais, non, il n'y avait pas énorme de vent, mais du coup, en fait, justement, il n'y a pas énorme de vent, et du coup, même s'il y avait un petit peu de vent, on essaye de se mettre, pour pas qu'il y ait trop de tension, de se mettre en gros face au vent, pour que la voile ne soit pas prise dans le vent, mais du coup, elle flappe, elle fait que de faire... Comme ça fait un bruit monstre.
Il parle beaucoup,
ouais.
Des flaps.
Ouais, ouais, exactement. et du coup, c'est super impressionnant, et surtout, elle menace de se déchirer aussi. Ça vaut super cher, une voile comme ça. Et en plus de ça, c'est notre voile qui nous permet d'avancer le plus vite. Donc, on a des problèmes avec notre grand voile, donc notre voile principale, mais qui n'est pas la plus grande. Sur un bateau, de base, c'est la voile de base, c'est la grand voile. C'est celle au milieu sur le mât. Mais le Genaker ou alors le Spi, qui est une voile d'avant, c'est une voile qui va se gonfler, qui est beaucoup plus technique, mais qui a plus de superficie. Sur tous les bateaux, c'est ça. Mais c'est des voiles qui ne sont pas tout le temps utilisées. Mais quand tu fais des traversées, en général, ça t'aide beaucoup, quoi. C'est celles où tu vas le plus avancer. Et puis en fait, selon le vent, tu utilises des voiles différentes. Tu vois, la grand voile, ça va être plus un vent de travers, donc perpendiculaire à ton bateau, tu vois. Ou alors... Enfin, ça peut dépendre, mais une voile d'avant, ça va être plus un vent qui vient du dos, tu vois, ton dos. Du coup, ça va te pousser, quoi. Donc là, on se met face au vent, la voile flappe, mais si elle se déchire, c'est terrible. Et du coup, il faut qu'on arrive à faire le plus rapidement possible. Et donc, à un moment, David, il fait, on va couper la drisse, quoi. Et puis pareil, la drisse, c'est le bout qui retient la voile au bateau, en gros, qui te permet de la border, donc, ou de la choquer, c'est de la tendre ou de la détendre. Et donc, on essaye de rattraper tout ça. Et du coup, à des moments, on est obligé de la tenir à la main, en fait, carrément. Et donc là, en fait, tu te fais emporter. Il y a un moment, Laura manque de passer par-dessus bord. À un moment, elle n'a pas lâché. Elle aurait pu, vraiment, s'il y avait un peu plus de vent, faire décoller 3 mètres et puis finir dans l'eau. Et puis là, en fait, tu as une voile qui est en train de flapper. Tu as ton truc qui est tout emmêlé. T'as quelqu'un à la mer, comment tu fais en fait?
C'est genre
la personne qui est à la mer a très peu de chances de s'en sortir, tu vois. Donc c'était hyper dangereux. On a dû lutter, genre je me rappelle après mal de partout, genre mal au dos et tout machin, de tenir, de force. Et on a réussi à s'en sortir, à détendre un peu cette voile et à faire passer l'écoute, mais c'était ultra dangereux. Et puis d'ailleurs, Lisa, elle s'est brûlée un peu les mains à un moment dans la drisse, quoi. Elle est partie un petit peu, ça a brûlé. Mais. Comme c'est toujours fou ce qui se passe sur l'Atlantique, enfin sur un bateau pendant une traversée, et ben tu fais toujours des hauts des bas. Genre là, c'est une émotion de malade. T'es au plus bas, il vient de nous arriver une dinguerie. Et en même temps, on s'en sort pas si mal, donc ça va, mais totalement claqué. Moi, je vais faire une sieste et tout. Et juste après, et ben
la petite pêche qui fait plaisir.
Le meilleur poisson de ma vie.
Après les fonds, le réconfort, comme on dit.
Exactement. Voilà. Alors, c'était fou.
Il y a une manière d'arrêter d'urgence le bateau, il y a des...
Ouais, en gros, quand quelqu'un tombe à la mer, t'as plusieurs choses à faire. Déjà, il y a... En gros, si t'es plusieurs sur le bateau, tu vas te répartir des rôles. Il y a une personne qui va noter tout de suite les coordonnées GPS d'un endroit où on l'a fait tomber, parce que tout de suite, on va envoyer un signal d'urgence. Ce point va permettre à les secours qui sont sur Terre de permettre de dévier d'autres bateaux pour avoir des chances de retrouver cette personne, de calculer un peu les courants aussi, machin, pour voir vers quel côté elle va dériver, etc. Et donc d'avoir une zone de recherche, en fait. Derrière, il y a un autre truc très utile, c'est de balancer des objets à la mer. Tu balances tout de suite une bouée avec une balise GPS aussi, pour qui va normalement suivre la personne à peu près. Et pareil, tu peux balancer, moi je pense que c'est ce qu'on aurait fait, on aurait balancé une bouée, après tu balances des coussins, des trucs, n'importe quoi, juste pour avoir un espèce de chemin du petit poussé, tu vois,
ouais.
Pour retrouver la personne. Quoi. Si elle arrive à choper une bouée ou un truc qui flotte, déjà, ses chances de survie augmentent drastiquement, je pense. Elle peut tenir déjà plusieurs heures en plus. Quoi. Mais le problème, c'est surtout l'hypothermie. Quoi. C'est très vite, l'eau est quand même très froide. Enfin, très froide, elle n'est pas glaciale, mais
il y a une grosse différence entre sur le bateau et dans l'eau.
C'est quoi. Ça, c'est ça. Très bonne question.
Et puis je me dis, en fait, parce que la manœuvre, elle n'est pas possible de faire un demi-tour comme ça.
Ouais. Alors, de base, tu abaisses les voiles,
ouais.
Moteur, et tu cherches la personne aussi.
Okay.
Mais là, avec une voile qui flappe. Enfin, non, mais je te jure, genre vraiment, ça aurait été.
Mais c'est souvent comme ça que ça arrive en fait. C'est
mais
que,
oui,
c'est qu'un gars
tombe,
c'est qu'il y a déjà un.
Et c'est là que du coup, je pense que tu reconnais les grands navigateurs, entre guillemets, c'est qu'ils arrivent à gérer plusieurs situations en même temps, à trouver une solution, tac, tac. Je pense que la personne qui tombait à l'eau était dans la merde. C'était ciao.
Allez, continuons sur quelque chose de plus joyeux. Hein.
Mai 2024, jour 23 transatlantique. Je me réveille à 3 heures pour mon quart. Il fait déjà jour. Il ne se passe rien de spécial, malgré la puissance de l'océan et le fait qu'on commence à voir de plus en plus de bateaux autour de nous. Notre radar est quelquefois en visuel. Puis je repars à mon coucher car je suis fatigué. 17e jour depuis Barbuda. Pour la première fois depuis quelque temps, je me réveille tout seul et ça fait plaisir. Bon, même si je n'ai pas assez dormi. Aujourd'hui, la mer est déchaînée. Il y a des vagues d'au moins 2,50 m, voire 3 m, qui forment des creux encore plus imposants. Ça fait légèrement peur, pour être honnête, mais bon, l'Atlantique était si calme que je me doutais que ça n'allait pas être aussi facile. Mais tout de même. Nous passons la plupart de la journée ensemble dans le carré à observer les éléments et à se changer les idées. On décide de changer d'heure puisqu'on a changé de fuseau horaire il y a peu. On devrait également passer sous la barre des 600 milles encore à parcourir dans la soirée. À un moment dans l'après-midi, une vague plus grosse que les autres nous surprend. On a tous en haut le cœur, comme dans un manège. Une partie des affaires entreposées à droite et à gauche voltige, mais rien ne casse. Par contre, personnellement, c'était un réel coup de flip. J'ai même cru pendant une fraction de seconde qu'on allait se retourner. En vrai, il y avait encore de la marge, mais tout de même, ça fait froid dans le dos. Les vagues ne se calmeront pas avant que j'aille me coucher par contre. Enfin bref, journée pas facile, mais on a bien avancé quand même, avec des moyennes entre 6 et 8 nœuds, alors qu'on a toujours seulement 3 ris et le solent. Je pars me coucher à 21h30, demain je prends mon quart à 6h.
Attends, les aventures, c'est plus les mêmes là. Hein. Avant, on était, oui, petite mère ville, tout ça, tout calme et tout. Et là, ça y est, ça fait deux jours, le dur du voyage transatlantique.
Petite précision, peut-être pour ceux qui. Je l'avais expliqué, je crois, à un moment, mais petit rappel, quand on met des riz sur notre grand voile, c'est qu'on monte pas la grand voile jusqu'en haut du mât. Un riz, on la met un cran en dessous, deux riz, deux crans en dessous, trois riz. Et du coup, on a beaucoup moins de surface. Et donc, en fait, quand il y a beaucoup de mer comme ça, tu vois, on avance déjà bien. 6 à 8 nœuds, c'est pas mal. Tu avances bien quand même sur un bateau. Alors qu'on a très peu de surface de voile. C'est assez plaisant quand même aussi, tu vois. Mais c'est un peu flippant aussi parce qu'il y a pas mal de vagues et tout. Tu vois, par exemple, si on était full toilé, donc zéro riz, bah, c'est là que tu pourrais te retourner en fait. S'il y a une rafale devant un moment, une mauvaise vague. Puis en fait, un catamaran, c'est pas comme un monocoque. Un monocoque, en gros, ça peut se mettre au tas, c'est-à-dire ça peut se coucher presque le mât dans l'eau. Mais la quille qui fait contrepoids, enfin, 99% des cas, ton bateau il va se relever quoi, il va se remettre droit. Alors qu'un catamaran, bah, t'as pas de quille au milieu du bateau, t'as deux petites quilles sur deux coques du bateau, mais sauf que bah, si tu te renverses, tu te remets pas droit quoi. Tu te renverses et t'es à l'envers quoi.
Ça me rappelle un souvenir. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un camp de voile, je sais plus sur quel lac, et tu vois, on faisait les zinzins avec mes potes. Ils nous avaient donné, en autonomie, pas des catamarans, mais c'est la même forme. Mais c'est,
des obicates.
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça.
C'est ça.
Et vraiment, on fusait. Et il y avait beaucoup de vent. Et on s'était retourné. Mm-hmm. On avait déchiré la voile.
Ouais,
en fait, le truc qu'ils nous disaient de faire, c'est vous grimpez. Une fois que vous êtes dans l'eau, vous grimpez et vous.
Ouais,
vous
et tu fais contrepoids et tu peux le remettre droit.
Tu fais le contrepoids.
Ouais, c'est ça.
Sauf qu'il y avait tellement de vent, on a tiré. Ouais. Le truc s'est remis droit et il est reparti dans notre sens. On a pu prendre le mât sur la tronche et tout.
Ah ouais.
Et ça a fini, mais je sais pas comment c'est possible. Mais le mât était à l'envers sous l'eau.
Ah ouais.
Le truc était totalement à l'envers. Ça a déchiré la voile et tout. Bon, on s'est pas fait engueuler, mais.
Ouais. Vous avez survécu.
C'était des grosses conditions, sûrement.
Ouais. Mais du coup, ça me fait un bon souvenir, quoi. Je m'en souviens bien.
Tu m'étonnes.
Et j'imagine pas avoir cette expérience-là au milieu de l'océan. Waouh.
Wow. 31 mai 2024, jour 24 transatlantique. C'est une des pires nuits que j'ai passées depuis que nous sommes partis. J'ai eu beau me coucher vers 22h, j'ai l'impression de ne pas trouver le sommeil avant 4h. Sauf que je prends mon quart à 6h, donc un peu court. À quoi cela est dû? Tout d'abord, je n'ai pas le sommeil facile pour ceux qui me connaissent bien. Ensuite, la houle, qui me fait même sauter dans mon lit par moments. Puis, il y a les bruits, le fracas des vagues, le grondement de l'océan, ainsi que les craquements de la coque. Et enfin, mon fucking cerveau, avec ses angoisses que je n'arrive pas à éteindre. Que se passe-t-il si maintenant on percute quelque chose? Ah, le vent s'accélère. Il faut bientôt que je me lève. Etc, etc. Mais bon, je savais que ce serait mon plus gros défi lors de cette transat. Donc pas le choix, on continue d'avancer. En espérant que la prochaine nuit sera meilleure. Une fois levé, je relève David, puis je prends la responsabilité du bateau. On avance toujours bien ce matin, et les milles ont défilé. Nous sommes environ à 450 milles encore à parcourir, et vu notre allure, on devrait passer en dessous des 400 dans la journée. Il y a toujours de la mer et de l'air, même si c'est peut-être un peu plus léger qu'hier. Il fait toujours un froid de canard, les tropiques me manquent. On croise de plus en plus de cargos, j'en aperçois un ce matin-là. À peine mon quart terminé, je repars me coucher en espérant tomber de fatigue. Ce fut le cas, même si j'aurais pu dormir encore davantage. Dans l'après-midi, on passe quelques moments ensemble à discuter et refaire la vie. Ça fait plusieurs jours qu'on ne fait pas de coinche. En effet, on ne peut plus jouer dehors et à l'intérieur, certains sont un peu sensibles. Quand la mer se calmera, on reprendra. Ça y est, on passe la barre des 400 000. On calcule donc qu'on devrait mettre encore 4-5 jours max et donc arriver aux alentours du mardi 4 aux Açores. On a hâte. Après un bon couscous au poulet, je prends mon quart de 21h à minuit. Je continue d'écouter mon livre audio, Le Comte de Monte Cristo. Je suis plongé dedans, c'est plutôt passionnant. À la fin de mon quart, je file au lit. Il y a un peu moins de mer, je devrais donc réussir à m'assoupir.
Ça finit bien ?
Ça finit bien. Ça va.
Sur le côté de vas-y, on arrive à s'assoupir et tout.
Je devrais réussir.
Et alors, t'as réussi ou
je me souviens
ça
pas.
Reste vraiment si, sûrement, une de tes pires nuits forever?
Non, mais la nuit d'avant, c'était une des pires nuits, ouais. Et celle-là, je pense qu'après, je crois que je suis tellement fatigué que je crois que j'arrive à dormir. On verra au prochain épisode.
La semaine prochaine. Merci encore à toi d'être venu nous conter ton périple.
Avec plaisir.
Et on le retrouve du coup sur notre site internet de la radio, rdwa.fr, et sur Spotify.
Bien sûr. Venez écouter nombreux.
À tout vite. Merci à vous d'avoir participé. Salut. Aussi. Tout ça, tout ça.
Ciao, ciao.